Ta première, c'est une revue qui est féministe, généraliste et indépendante. Indépendante, ça veut dire qu'on n'a pas de publicité, qu'on n'a pas d'actionnaire et aussi voilà, qu'on est distribué dans des lieux comme si en librairie, pas en maison de presse. Voilà. Et c'est une revue qui a sorti son premier numéro en 2017 et qui, pour le dire très rapidement, apprend pour ligne éditoriale le slogan féministe, le mot d'ordre féministe, le privé et politique. Donc l'idée, c'est un petit peu de travailler, de l'actualiser, de le poursuivre et de travailler sur ces intersections entre différentes sphères, intime, politique, privé et public. Et peut-être pour que vous ayez une idée de qui on est, donc là aujourd'hui on est deux, mais on est un collectif de 15 personnes qui a fluctué pas tant dans son nom mais dans qui fait partie. Il y a quelques personnes qui sont là depuis le début, Julia, moi aussi, d'autres personnes, et on vient d'où on vient, c'est des personnes qui travaillent autour du texte de différentes manières. Il y a des personnes qui font de la traduction, des personnes qui font du journalisme, des personnes qui sont dans l'université, dans la recherche. Il y a aussi quelques personnes qui gravitent plutôt dans le monde de l'image, dans la fabrication d'images. Voilà. Et puis, c'est un petit peu quand même dans ce milieu-là. Et peut-être un truc qu'on peut préciser, que c'est une revue dont les membres ne sont pas localisés dans un seul endroit. On est complètement dispersés entre plusieurs villes, en France et en Belgique aussi. Donc il y a des personnes à Grenoble, à Paris, à Marseille, à Liège. Et voilà, puis ça a un petit peu bougé au fil des années. Donc ça, c'est sur le qui nous sommes. Rapidement. Est-ce que l'on continue un petit peu?
Ben, peut-être. En fait, ça a été un petit peu dit, mais en fait, le principe de la revue, c'est d'avoir un calibrage de 100 pages à chaque fois. En fait, c'est une contrainte qu'on avait envie de se donner. À chaque fois, il y a un thème qui traverse. Pas qui traverse le numéro, parce qu'on a donc toute une partie de hors-thème qui, pour nous, n'est pas. Moins importante que le thème, c'est les deux tiers du numéro, puis on a un tiers, c'est à chaque fois les pages jaunes du milieu qui correspondent à un sujet qu'on a envie de pousser. Et peut-être que pour illustrer la ligne éditoriale que nous on s'est choisie au début, donc une ligne éditoriale qui était à la fois précise car reprenant un slogan féministe, voilà, le personnel, le privé et politique, et en même temps aussi très vaste. En tout cas, nous, on a eu envie de le penser de manière très vaste, en disant qu'on allait s'interdire aucun sujet, et que ce qui faisait plutôt notre spécificité, c'était de travailler avec une méthodologie féministe, plutôt que des thématiques qu'on s'autorisait ou pas d'aller regarder. Donc en fait, c'est pouvoir regarder tout ce qu'on a envie, mais on travaille aussi en non-mixité sans homme cis, donc ça aussi, c'est aussi un principe de travail qui est important. On travaille avec le principe aussi de se dire que l'édition, comme pratiquement tous les mondes du travail, est un endroit extrêmement sexiste et patriarcal, donc on a une attention à qui on édite, qui on publie, qui on va chercher, etc. Donc en fait, disons que toutes ces différentes attentions éditoriales, évidemment, fabriquent ensuite un contenu, fabriquent des méthodes qu'on pousse peut-être plus que ce qu'on avait pu connaître dans des espaces de mixité, de travail mixte, etc. Ça, c'est quand même un fondement vraiment très important de la revue, et peut-être que je fais le lien directement avec la question de l'économie, vu qu'on est là aussi pour parler d'argent, et pour arriver pas trop tardivement sur le thème, mais qu'on comprenne comment voilà, ce thème, c'est quelque chose qui habite quand même notre pratique depuis le début. Donc le thème de l'argent, le thème des matérialismes, au pluriel, des féminismes matérialistes qui sont des choses qui, parmi d'autres principes politiques, nous habitent quand même assez fort. Bah, disons que quand on a monté la revue, notamment, on s'est beaucoup questionné sur la question de son économie. Et pour illustrer ça, ben, en fait, je pense qu'il est important de dire que plusieurs personnes de la revue qui s'étaient regroupées au début pour fabriquer Panthère Première, avec cette idée-là, venaient aussi d'espaces d'édition où la gratuité et le bénévolat étaient quelque chose d'évident, enfin, en tout cas très associé au militantisme, et pour plein de raisons qu'on trouvait valables, en fait, et ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, parce qu'il y a une critique de l'argent, de certains canaux, de certains marchés, de certaines mises en marché aussi, et des idées, des productions, etc., donc qu'on refuse, qu'on récuse, qu'on critique, etc., mais qu'à la longue, en fait, cette gratuité non pensée, non réfléchie et obligatoire, en fait, nous semblait aussi avoir beaucoup d'écueils. Et le premier écueil, c'était cette réflexion, mais qui revient aussi dans d'autres pratiques, et notamment, là je fais le point un peu avec la pratique de l'art, mais parce qu'on est aussi dans un lieu où j'imagine que ça circule à ces endroits-là, avec des... Enfin, dans l'édition et dans le travail de l'écriture, on voit beaucoup, et du journalisme, mais du journalisme, on va dire, semi-professionnel, enfin, ou professionnel, mais pas dans des organes de presse, on va dire, un peu classiques. Donc aussi des endroits où on va pratiquer des enquêtes, où on va essayer d'aller creuser des endroits non financés, enfin, avec peu de finances ou peu de moyens derrière, etc., donc de l'enquête indépendante et tout ça, et ben on se rend compte que, que les parcours en fait s'essoufflent plus les années passent, aussi à mesure que les gens s'épuisent, qu'il y a moins l'agnac d'évoluer au siècle de la précarité. Et que voilà, produire des travaux exigeants avec beaucoup de travail derrière, sans argent non plus, ça pose des vraies questions, et ça pose notamment la question de à qui sont réservés ces espaces. Et il y a vraiment ce truc, enfin je le nommais hier, donc désolée, je répète des trucs que j'ai dit hier, oui, mais ces effets d'écrémage qu'on voit d'abord à la trentaine et puis ensuite à la quarantaine, etc., où finalement on ne reste dans des espaces de création. Que des personnes qui peuvent, alors soit qui ont le bonheur d'avoir un métier à côté qui permet d'avoir plein de temps, et de l'argent et du temps, soit des gens plus privilégiés que d'autres, qui cumulent plein de privilèges, etc. Et ça, dans l'écriture, c'est quelque chose qu'on voit très fort aussi. Et aussi parce que, typiquement pour des meufs, peuvent se poser des questions de maternité aussi, donc ensuite des choix et des priorités, et des priorisations qui... Faut qu'on s'éloigne aussi des endroits de créativité qui sont plus rémunérateurs, etc. Donc on s'est dit, on va essayer de au moins le regarder, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on pouvait pas, enfin en tout cas qu'on n'avait pas très envie d'instaurer un modèle où on payait personne dans l'idée qu'éventuellement à un moment donné on paierait des gens. Et on s'est dit, on va commencer avec une toute petite économie, mais dans cette toute petite économie, on va quand même essayer de penser la rétribution du maximum de personnes. Et donc des rétributions hyper minimes. Au début, on a commencé avec vraiment peu d'argent. Donc Panthère Première, au début, c'est un appel à dons qui a fait que ça existait. On avait pas mal de... Alors pour certaines d'entre nous, on était quand même depuis assez longtemps dans des réseaux d'édition. Donc on avait beaucoup de soutien à ce moment-là, d'autres réseaux d'édition pour cet appel à dons. Et puis l'appel à dons, il a concerné aussi nos familles, etc., nous-mêmes, et on a fini par récolter plus de 15 000 euros, à peu près, alors qu'on avait misé sur 8 000, on pensait que ça allait être assez difficile de gagner 8 000 euros déjà, et en fait on a été extrêmement surprise d'avoir tout ce pognon. Et ça a été très bien, parce que ça nous a aussi permis, du coup, à ce moment-là, de réfléchir à comment on allait répartir ce fric. Donc ça, c'est une grande question dans les projets qu'on mène, quand il y a de l'argent, mais pas non plus tant que ça. On a commencé par se dire qu'on n'avait pas envie que les trois quarts de l'argent partent dans la fabrication de l'objet. Et en fait, ça, c'était aussi quelque chose qui était, je crois, assez important et qui tranchait peut-être avec certaines initiatives éditoriales auxquelles on avait appartenu, dans lesquelles on était encore, où en fait, la majorité de l'argent récolté, en fait, c'est fabriquer un très très bel objet, un objet, en quadrichromie, avec un dos carré collé. Donc un dos carré collé, vous voyez les MOOC, c'est les mélanges entre magazines et livres. C'est des magazines qui ressemblent à des gros livres et qui sont aussi souvent assez lourds. Et nous, on s'est dit, bon, ben.
Qui sont imprimés sur du très beau papier.
Imprimés sur du papier en numérique, etc. Mmh. Donc, c'est aussi des techniques d'impression qui coûtent. Et donc, on s'était dit, bon, ben, nous, on a envie de faire un bel objet, mais un objet déjà qui ne renvoie pas l'image d'un objet qui soit inaccessible complètement. Donc, un objet qui soit, qu'on puisse tordre, qu'on puisse plier, qu'on puisse embarquer, qu'on puisse découper, etc. Donc, ça, c'était. Qu'est-ce qu'on a envie que l'objet renvoie, mais aussi qu'est-ce qu'on a envie que l'objet coûte. Et donc on s'est beaucoup renseigné, et ça a été un moment assez intéressant, sur ben, les techniques d'impression, comment on faisait pour imprimer à moindre coût, comment on faisait pour avoir voilà, un objet assez joli, mais qui n'allait pas pomper tout le fric, parce qu'on allait réserver du fric au travail. Enfin, voilà. Et donc c'est comme ça que Panthère Première s'est agrafé. Quelque part ça nous a créé de la contrainte, parce qu'en fait 100 pages c'était le maximum de feuillets qu'on pouvait avoir, et de feuilles qu'on pouvait avoir en impression sur du papier journal, donc sur rotative offset, ce qui permet d'avoir des coûts d'échelle intéressants quand tu lances la machine. Mais ça, bah, fallait trouver l'imprimeur qui était d'accord, sachant que nous on imprime à 3500 exemplaires et qu'en général ils n'acceptent pas en dessous de 6000 exemplaires, parce que c'est, tu lances les machines, donc il y a aussi, encore une fois,
oui, il y a des économies d'échelle,
c'est ça,
qui sont intéressantes, pas satisfaites en dessous de 5000-6000 exemplaires.
Et donc on s'est un peu fait recaler par tous les imprimeurs en France, donc en fait c'est des imprimeurs qui impriment vraiment la presse quotidienne, enfin moi les journaux quoi, les journaux. Et puis en fait un imprimeur du nord de la France, on ne sait pas par quel miracle, a décidé à flasher sur le projet et nous a dit ok, on vous prend pour 3500 exemplaires. Et donc ben nous on a, voilà, ce qui nous permet d'imprimer sur papier journal avec des techniques d'impression peu chères, et on est content de la qualité, et c'est un super compagnonnage, je pense un compagnonnage plutôt militant, parce que cet imprimeur là ne gagne pas beaucoup d'argent avec Panthère Première par rapport à sa spécialité, qui sont les mots croisés. Voilà.
C'est à le mot croisé, c'est
voilà. Il nous aime beaucoup, et donc je pense qu'il y a quelque chose, qu'il y a une belle rencontre qui s'est faite. On ne les a jamais rencontrés de visu, hein, mais on a de très bons liens avec eux. Comme quoi, voilà. Mais voilà, tout ça pour raconter que ben voilà, la fabrication d'objets, ça a été, enfin c'est les conditions de fabrication, c'est quelque chose qu'on a vraiment, en tout cas, décidé de penser au début pour... Voilà, et finalement, imprimer Panthère Première en 3500 exemplaires, ça nous coûte, en fonction des années, bon là, y a le coût du papier a beaucoup augmenté, donc c'est un peu différent, mais c'est entre 5 et 6 000 euros, ce qui est très différent de, des grosses factures à presque 20 000 euros des autres revues, y compris militantes et politisées, et qui sont superbes, par ailleurs, y compris dans le contenu. Mais du coup, voilà, on voulait pas faire ce choix, quoi.
Et du coup, juste, peut-être on peut revenir là-dessus après, mais donc, je pense que ces questions de quel est le modèle économique de la revue, elles ont été vraiment constitutives. C'est des choses c'est parmi les premières choses dont on a discuté. Et en tâtonnant, évidemment, et en cherchant quelque chose qui, d'abord s'est dirigé vers le fait d'offrir une forme de rémunération largement symbolique au départ. Pour les personnes qui contribuaient à la revue. Donc là, je veux dire les personnes qui publient un texte ou des images dans la revue. Sachant que le reste du travail éditorial, au départ, enfin, est bénévole. Et donc ça, c'est un principe qu'on a réussi à maintenir jusqu'à maintenant, en augmentant progressivement... Alors pour un texte, on compte par feuillet. Donc un feuillet, c'est combien de signes?
C'est 1500 signes espace compris.
1500 signes espace compris. Donc on a progressivement augmenté. Parce qu'on a réussi progressivement, à partir du crowdfunding, ensuite, à obtenir des subventions publiques, pas contraignantes en termes de contenu, qu'on ne peut que demander à partir d'un certain nombre d'exemplaires ou d'années d'existence. Donc ça, c'était une condition pour pouvoir augmenter les rétributions. Et progressivement, c'est aussi poser la question de rémunérer certains postes au sein de la revue. Donc de créer des postes et de rémunérer des postes qui permettent tout simplement de faire fonctionner une revue, en fait, qui est... comme tu le disais hier, à partir du moment où tu rétribues des gens, il faut une administration. Donc il faut avoir un suivi, quoi, tu fais une demande de financement, etc. Donc il y a un poste de coordination administrative, un poste de coordination éditoriale, puis il y a un autre poste qui avait plus à voir avec la question de de diffusion, de distribution, de gérer ces aspects-là, d'abonnement. Selon des modalités diverses, c'est tout un des calculs en fonction d'éligibilité, des dispositifs qui existent. Bon, la revue administrativement, elle est basée en France, donc de ce qui est possible ou pas en termes de contrats cofinancés par l'État. Et donc progressivement, c'est mis en place, se sont mis en place ces trois pôles qui font aussi l'objet d'une rémunération et du coup aussi d'un statut de travailleur, de travailleuse en l'occurrence. Et qui sont des postes précaires, mais qui existent et puis qui permettent, je pense, d'ancrer un peu dans la durée aussi cette réflexion sur essayons de ne pas faire que du travail gratuit dans ce qu'on fabrique.
Et aussi parce qu'il y avait aussi ce très fort constat de voir que on s'était dit, bon, en fait, c'est quand même assez épuisant de faire des revues parce qu'il y a toujours ces questions de deadline. Alors, ça dépend évidemment de la périodicité. Nous, au début, on a commencé à deux par an, maintenant, on est à un par an. On est annuel et aussi, je crois que c'est quelque chose qui nous va bien parce que notre rythme d'édition et de travail est lent parce qu'on travaille beaucoup en collectif et on édite beaucoup en collectif. Donc, tout ça, ben, c'est aussi. Ça prend du temps, ça se soigne, ça se réfléchit, ça se corrige, etc. Donc ça nous laisse quand même le temps de réfléchir au protocole, nous en interne. Et du coup, ben, on pourrait aussi qualifier Panthère Première à la fois comme une revue, mais aussi comme un collectif de travail qui essaye des choses, quoi. Et c'est quelque chose qui est quand même une grosse partie du travail. Et si je pense qu'on n'avait pas cette partie un peu plus en recherche de méthode, on pourrait sortir deux numéros par an plus facilement. Mais nous, on s'est rendu compte qu'en fait, ça nous éprouvait quand même pas mal dans le travail en interne. Ça instaurait des routines beaucoup plus serrées, en fait, qui sont les routines de l'édition plus classiques, on va dire. Et qu'on, voilà, c'était un endroit où on avait justement envie de s'offrir ce temps aussi.
Je pense que c'était aussi il y a des questions de qu'est-ce que c'est de faire vivre un collectif composé de plusieurs personnes. Je pense que peut-être vous avez tous c'est toute une expérience de ça. Aussi, les disponibilités, elles sont variables. D'essayer d'accommoder ça dans le temps de la fabrication de la revue. Et je pense aussi dans la manière d'éditer. Alors, par exemple, moi, je n'avais pas d'expérience en dehors de la revue. Donc, je ne peux que me baser sur des retours que j'ai eus de personnes qu'on a éditées. On fait très attention et on n'intervient pas directement dans le texte. Donc c'est un travail très long.
Ça dépend des articles.
Ça dépend des articles, mais ça veut dire concrètement qu'on ne prend pas, on ne reçoit pas un texte, puis on le prend et on le biffe dans tous les sens, on change et voilà, ça part en impression. Ça veut dire qu'il y a parfois plusieurs allers-retours avec l'autrice ou l'auteur et que chaque modification en fait est le fruit d'une suggestion. Et du coup, il faut formuler la façon dont on propose que ce soit modifié. Donc c'est un travail très long, sachant que chaque texte, il est édité par 2-3 personnes du collectif, et qu'on n'est pas forcément d'accord entre nous. Donc ça...
Voilà, ça. On s'en sort, hein, ça finit par sortir.
Donc je crois que c'était aussi le rythme de publication, il est un petit peu en harmonie. il est pas la fréquence, elle correspond aussi à la manière dont on travaille, où on veut se laisser le temps de travailler comme ça et du coup d'être un peu moins interventionniste directement dans les textes que la plupart des autres revues font.
J'ai une question, je sais pas si c'est ok de parler de combien les personnes rémunérées gagnent par an, combien d'heures de travail ça fait. C'est quoi votre chiffre d'affaires ou...
Moi j'ai pas révisé les chiffres.
C'est plus pour avoir une idée, parce qu'à un moment je me disais, ah du coup il y a des personnes à plein de temps là-dessus, puis en fait je crois pas.
En fait, alors les chiffres que. Par exemple, donc les contributeurs et contributrices sont très mal rémunérés, prévenus que c'est comme ça. Donc au début on a commencé avec 10 euros le feuillet, maintenant on est à 20 euros le feuillet. C'est bien en deçà des tarifs, on va dire, professionnels ou des standards du journalisme, etc. Mais nous, on ne s'ancre pas trop dans ce champ. Donc, c'est ce qu'on peut faire. Sachant que les montants des rémunérations de tout le monde, en fait, de toutes les personnes rémunérées dans le projet, en fait, peuvent varier d'une année à l'autre en fonction des budgets qu'on a aussi. Parce que nous, on les vend, les revues. Donc, en fait, on se fabrique un fonds propre qui peut moduler, en fait, en fonction des ventes. aussi en fonction des subventions. Parce que nous, on a vraiment fait ce que tu disais. Hein, on a fait le choix de se dire, nous, les subventions publiques, en fait, c'est OK. C'est un argent qu'on redispatche derrière. Enfin, ça nous va à partir du moment où c'est des subventions qui sont absolument pas contraignantes, mais c'est aussi des subventions qui ne nous font pas toujours assurer, quoi. Donc, ça peut faire varier le budget. Donc ça, par exemple, pour le texte, ce barème-là, aujourd'hui, on est à 20 euros le feuillet. Après, dans la revue, on a toujours rémunéré, donc depuis le départ, lors de la première année, en fait, le temps que tout se mette en place, etc. Par exemple, les correctrices, les ou la maquettiste, ça dépendait. Du coup, les tâches de coordination, dont tu viens de parler. Et par exemple, pendant des années, en fait, c'était 50 euros par mois, par exemple, pour les personnes qui tenaient vraiment la structure. Parce que les coordos, donc, pour le dire autrement, c'est soit les personnes qui s'occupent d'une partie de la charge mentale de la structure, soit les personnes qui assurent la continuité de la structure. Donc ça, c'est quand même un peu tout le temps. Parce qu'en fait, il y a quand même un peu tout le temps des trucs à gérer, un peu toute l'année. Et en fait, ben, vu qu'on édite sur toute l'année, l'activité de la revue, c'est pas le moment de la sortie, quoi. C'est quand même vraiment tout le travail invisible qu'il y a derrière, etc. Donc c'est organiser des résidences. Enfin, tu vois, donc c'est... Les coordos se chargeaient en tout cas de ce travail-là, etc. Et c'était vraiment, je crois qu'au début c'était 50 balles par mois, en tout cas euros, parce qu'on ne pouvait pas faire plus. Et puis par exemple, les correctrices, je ne sais plus, c'était 150 euros la correction d'un numéro. Donc c'est pour vous dire, c'est des tout petits montants. Et pendant longtemps, le budget de un numéro, c'était 12 000 euros par exemple. Mais quand je dis 12 000 euros, c'est vraiment. Comprenant du coup les frais d'impression, les rémunérations, les allers-retours billets de train de toutes les personnes, des 15 personnes qui se rejoignent 3 fois par an pour une semaine de résidence et de travail, plus quelques week-ends, enfin voilà, fallait que ça coûte aucun argent à personne, mais voilà, c'était tu viens en stop, c'était quand même c'est cette économie-là, donc c'est essayer de mettre de l'argent dans une économie où il y en a très peu. Et c'est presque plus un acte pour dire voilà en fait ben ce on est dans un monde où l'argent quand même existe et enfin pas faire sans et pour plein de personnes c'est quand même une vraie véritable question quotidienne donc n'occultons pas ça mais c'est pas des sommes après la quantification du travail c'est quelque chose qui est vachement difficile. Parce que t'as des temps, c'est exactement le genre de projet sur lequel ben, des fois tu as des temps un peu creux. Tu vois, par exemple, le moment où tu te fais des réunions, tu décides de. Tu cibles ou tu commandes, ou des articles t'arrivent, ou des gens que tu connais, ou des gens de l'équipe veulent écrire, etc. Puis ensuite, il y a quand même ce moment où tu attends les articles. Il se passe pas rien, ben, typiquement, on peut venir présenter la revue, faire des choses comme ça, mais y a comme ça des temps. Y a peut-être un peu moins de travail. Disons que les 6 derniers mois, il y a beaucoup de travail. C'est quand même beaucoup d'éditer 100 pages. Enfin, en tout cas, pour certaines personnes, c'est beaucoup de travail. Donc, c'est extrêmement difficile de quantifier. Mais par exemple, on s'est amusé à. Enfin, amusé. On a essayé, notamment pour les demandes de sub, de visibiliser la part du travail gratuit. Et ça, ben, alors, c'était des. Je sais pas comment dire. On a fait une sorte de moyenne à un moment donné avec Marie, la personne qui s'occupe beaucoup des questions administratives dans la revue, enfin, en tout cas, qui coordonne ça. Et pour essayer de quantifier le nombre de réunions qu'on faisait. Le nombre de déplacements, le nombre de présentations, tout ça, et sachant que c'est des choses qui sont pas rémunérées, par exemple pour les personnes, mais au moins de quantifier, de faire apparaître que pour tout ce projet-là, ben en fait c'est tout ce travail-là, en tout cas c'est tout ce temps de présence. Donc temps de présence ne veut pas dire travail, enfin après c'est aussi des débats à avoir et à réfléchir sur qu'est-ce qu'on appelle travail, pas travail, où se situent les frontières du travail, donc un lien avec la suite, mais... Mais en tout cas, on a essayé. Je suis incapable de mémoire de dire ce chiffre. Ce serait intéressant de l'avoir. Mais
du temps.
Bah du temps. Non. Tu as du. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'était. On trouvait ça pas. Par exemple, pour des financeurs, on trouvait ça pas inintéressant de faire apparaître ça. Et même pour nous aussi, d'avoir cette donnée. Et après, juste pour finir sur cet aspect vraiment de l'argent, enfin de la rémunération. Par exemple, là, donc depuis un an, il y a eu des contrats aidés. Enfin, il y a des contrats qui sont... Enfin, c'est des formes de contrats en France, comme tu disais, aidés par l'État. Pour y accéder, il faut quand même rentrer dans des critères, plutôt des critères sociaux. Donc, c'est pas tout le monde de la revue qui peut y accéder, parce qu'on est quand même nombreuses aussi à travailler, même si le travail à côté est précaire. Ça te fait très rapidement sortir d'une catégorie qui fait que tu pourrais accéder à un contrat aidé. Mais bref, on en avait, on va dire, un et demi. Et en fait, ça faisait... c'était des équivalents des CDD, donc des contrats à durée déterminée de 6 mois ou 9 mois ou 1 an, et c'est du 800 ou 900 euros par mois. Et donc ça, c'est ce qu'on a réussi à faire pour les cohorts d'eau depuis un an. Voilà. Mais on ne sait pas, voilà, typiquement, on ne sait pas si on a le budget. Cette année, par exemple, ben, on a une subvention qui a pété, une subvention importante, publique, a priori plutôt pérenne. Donc ben, ça questionne, parce que bon, donc, autant on sera pas, on n'aura pas les finances assez, les reins assez solides pour répéter la question des contrats. Donc voilà, quand on crée un truc, ben, on sait que c'est pas forcément pérenne, quoi. Voilà.
Avant, tu disais qu'il y a eu du changement depuis le début de la revue. Est-ce que tu as l'impression que c'est justement lié à ces questions de thunes et que c'est pas assez payé pour en vivre et que du coup les personnes font un moment et puis après, elles... eh bien, c'est plutôt d'autres trucs.
Bonne question. Spontanément, je dirais que c'est pas le facteur principal, mais peut-être que ça s'inscrit quand même dans des questions. D'arbitrage, quoi. Enfin, de le temps que tu peux mettre dans le travail gratuit, tu décomptes peut-être d'activités rémunérées ou d'autres obligations qui t'accompagnent par ailleurs. Mais je pense que ça rentre dans l'équation. Je sais pas. Mais vu que dès le départ, le gros du travail éditorial était bénévole. Je sais pas si c'était le facteur principal dans les gens. Mais
je crois pas non plus. En fait, je réfléchissais en même temps que tu répondais, mais je crois que je suis assez d'accord. En fait, j'ai l'impression que à partir, en fait, justement, on s'était dit ce truc de pour que le collectif perdure. En tout cas, on peut pas attendre. Et en plus, si les gens qui composent le comité de rédaction sont pas payés. On ne peut pas attendre un taux de participation. Je ne sais pas comment dire. Donc, en fait, s'il y a un moment donné, un événement de la vie, un autre boulot, plein de choses qui fait que tu ne peux pas être dans la revue et donner ce travail, mais que tu as envie d'y rester et qu'en fait, en gros, ça ne veut pas dire se barrer pendant 5 ans, parce que, mine de rien, il y a un moment donné, le collectif ressemble aussi à peu près aux forces qu'il constitue, ne serait-ce que pour les autres personnes qu'il constitue. Mais c'est ok en fait, si à un moment donné t'as une année où t'es pas là et tu reviens l'année d'après, ça le fait. Du coup, je pense que cette possibilité qu'on s'est quand même dite et qu'on a souvent répété de pouvoir varier dans l'engagement, j'ai l'impression que ça fait qu'il n'y a pas des personnes qui se sont genre barrées parce que c'était trop. Mais aussi parce que dans le collectif, tu peux aussi intervenir, lire un article par exemple. Enfin, on n'a pas, je sais pas comment dire, une demande de participation.
Oui, je sais minimum, que dans certaines revues, ça se fait de demander un engagement minimal, d'écrire tant d'articles par numéro, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on n'a jamais procédé comme ça, et que très un peu spontanément, mais du coup dans la répétition, ça crée une forme de norme. Quand certaines d'entre nous étaient moins disponibles, on le faisait savoir. Et je crois pas que ça ait créé de gros problèmes.
Mais par contre, c'est intéressant de le nommer comme ça, c'est que, en fait, ce système, il est ok à partir du moment où t'as des gens qui sont là. Enfin, c'est-à-dire que ces systèmes de pouvoir entrer, venir, avoir des engagements différents, en fait, il a fonctionné dans la revue parce qu'il y avait des cordeaux qui étaient là tout le temps, qui partaient jamais. Enfin, en vrai, et du coup, qui étaient un peu rémunérés. Et d'ailleurs, ce que tu dis, mine de rien, ça s'est posé. Moi, par exemple, je me rappelle très bien, genre, avant, il y a quand même un an et demi. Donc moi, j'assurais, c'est fini, mais la coordination éditoriale de la revue, enfin, on a plusieurs postes, et puis il y avait cette partie coordination éditoriale qui revenait beaucoup à animer le collectif, donc un collectif à distance, et puis faire en sorte de respecter la montre, quoi. Pas le travail le plus intéressant du monde, mais qui est quand même hyper nécessaire. D'ailleurs, que tu es dans l'édition et que tu es dans un système en fait, avec tout un rétro-planning, avec plein de travailleuses qui s'adjoignent, en fait, parce que nous, on a l'imprimeur, mais on a les correctrices, on a les maquettistes. Enfin, il y a des choses, d'un moment, il faut que ça rentre, quoi.
Et surtout, oui, tu as des moments cliqués, quoi. Tu ne peux pas revenir.
Ouais, c'est ça. Tu as une date de diffusion, c'est annoncé 6 mois à l'avance, bam, tu sors en librairie, et là, à partir de là, commence un rétro-planning qui est quand même assez serré. Donc nous, on a vraiment décidé dès le début de se dire, bon, ça, c'est une personne qui fait ce boulot, et pas que ce boulot, évidemment, mais du coup, qui va être là pour booster l'équipe aussi, enfin, faire ce travail-là, et puis des fois, faire le travail de certaines personnes qui le font pas, parce qu'en fait, justement, des fois, c'est pas possible, donc il faut une personne comme ça. Et je sais que pendant plein d'années, moi, c'était OK, par exemple, avec la manière dont je gagnais de l'argent, mais aussi parce que je vivais à Marseille, où j'avais un petit loyer. Enfin, je vous donne des détails, mais parce que je trouve que c'est pas inintéressant pour voir sur comment ça s'agence avec des économies comme la nôtre, et où d'autres boulots dans l'édition, un petit loyer, faisaient que donner du temps à Panthère Première, qui était un projet important pour moi, c'était d'accord. Enfin, puis j'ai déménagé à Grenoble, mon loyer a vraiment limite doublé. Et en fait, je me rappelle très bien de ce moment où en fait Panthère Première devenait un manque à gagner. Parce qu'en fait, mine de rien, t'as un effet de ton poste, il existe, t'es très peu payé pour. Et je me rappelle très bien le moment où j'avais dit, en fait, soit on tourne, soit en fait quelqu'un d'autre le prend, soit moi en fait je veux être payé, je veux être vraiment payé, quoi. Et c'était OK de le dire comme ça, parce que dans la revue, il y avait cette volonté de créer des contrats salariés depuis longtemps et qu'on attendait d'avoir suffisamment de fric. On avait vachement bien pensé ça. On a vraiment mis de côté de l'argent tous les ans sur les subventions pour pouvoir créer à un moment donné des contrats. Donc c'est un truc qu'on a pensé sur des années. Et donc c'est au bout de 6 ans, 5 ou 6 ans de revue et de fonctionnement comme ça, que on a pu créer un contrat. Mais c'était OK, enfin je sais pas comment dire, c'était pas un truc revanchard ou en colère ou je sais pas quoi, mais c'était plus de dire en fait là ça passe plus, donc soit le poste il tourne maintenant, soit en fait faut que je sois rémunérée, et on l'a rémunérée, et puis par contre il tourne quand même, mais c'est super, enfin c'est... Mais c'était quand même un moment de se dire, les économies vie changent, qu'est-ce qui est tenable dans la durée ou qu'est-ce qui est moins tenable, etc. Et d'ailleurs, tu vois tout de suite quand ça devient moins tenable. En fait, le projet t'agace, les gens t'agacent. Non, mais il y a un truc qui vient te tirailler, en fait, à des endroits. T'es beaucoup moins patient, t'es beaucoup moins passionné aussi par le truc qui t'a passionné quand même pendant des années. Donc voilà, donc c'était aussi être vigilante au moment où ça commence à tirer, en fait. Ça a été OK parce que le cadre de la discussion, il avait été créé à cet endroit-là. Je pense que ça doit être super galère quand d'un coup tu sens que ça craque et qu'il n'y a rien qui est prêt pour accueillir ce genre de moment où ça craque, quoi.
Puis juste pour appuyer sur un point que vient de dire mentionner Julia, c'est le fait de pouvoir se soustraire d'un collectif ou juste être en mode un peu sous-marin, en présent, de devenir un satellite. Ça a fonctionné effectivement parce qu'il y avait des personnes qui assuraient la continuité. Continuité qui a été aussi formalisée à un certain degré. Donc il y a toute une série de protocoles qui existent qui permettent, qui expliquent par exemple comment est-ce qu'on édite un article. Donc il y a une trame, ça explique les différentes étapes, etc. Tout ça c'est écrit et qui ont permis d'intégrer de nouvelles personnes. Donc je pense que c'est aussi, il y a des personnes qui, à un moment donné, se sont mises un peu en retrait ou étaient moins impliquées qu'à d'autres moments. Mais ça a toujours fonctionné grâce au fait qu'il y ait des personnes qui assurent la continuité, aussi parce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont rentrées. Donc ça, quand même, la revue, tous les ans, il y a une ou deux personnes qui sont rentrées, qui ont permis, j'ai l'impression quand même, globalement, de maintenir une forme d'équilibre. Évidemment, il y a des trucs d'ajustement, ça, mais voilà.
Du coup, on vous raconte tout ça, mais parce que nous, on cherche, je sais pas comment dire, il n'y a jamais de modèle préétabli à une forme qui. Enfin, du coup, nous, c'est aussi une forme qui évolue, qu'on cherche. J'imagine que dans vos projets, dans vos collectifs ou dans vos boulots, peut-être que la question de l'argent, c'est. Ça existe et c'est quelque chose que vous vous interrogez aussi. Enfin, ça serait curieux, ça serait intéressant de. Enfin, n'hésitez pas en tout cas.
N'hésitez pas si ça fait écho.
Enfin, voilà, nous,
on peut partager la parole.
Et tout ça, mais c'est les outils de Panthère Première et qui sont ce qu'ils sont et qu'on cherche à bouger et puis des fois qu'ils conviennent, des fois qu'ils conviennent pas et tout ça. Quoi.
La suite de la discussion a porté sur le numéro 2 et surtout le numéro 10 de Panthère Première. Il a été question d'inégalité de fortune, d'accès à l'argent au sein des collectifs dans les milieux de gauche militants. Et comment ces inégalités peuvent nous informer sur la valeur accordée à l'argent et au capital selon notre milieu social ou situation. Vous trouverez des extraits des articles de ces dossiers sur le site de Panthère Première ou dans la partie bibliothèque de notre librairie où les numéros sont disponibles. Nous avons eu envie de contribuer à cette discussion en partageant des extraits de l'article de Dorothy Allison, Une question de classe. Ce texte nous a marqués par la manière dont l'autrice aborde la question de classe au sein des milieux féministes militants. L'article est disponible dans son intégralité en PDF sur infokiosque.net. Merci à Elle pour ce partage. Bonne écoute. La lecture que vous allez entendre est donc faite de différents extraits qui suivent la chronologie du texte. Une question de classe. Une question de classe. La première fois que j'ai entendu « Ils sont différents de nous, ils n'accordent pas la même valeur que nous à la vie humaine », j'étais au lycée en Floride. L'homme qui parlait était un recruteur de l'armée, s'adressant à une bande de garçons, leur expliquant ce que c'était vraiment l'armée et ce à quoi ils devaient s'attendre outre-mer. Un sentiment de colère froide m'avait envahi. J'avais entendu le mot « il » prononcé sur le même ton dur avant. « Ils, ces gens là-bas, ces gens ne sont pas nous. Ils meurent si facilement, s'entretuent, si aisément. » Ils sont différents. Nous, j'ai pensé, moi. Lorsque j'avais 6 ou 8 ans à Greenville, en Caroline du Sud, j'avais entendu ce même ton de rejet, en l'occurrence employé à mon égard. Ne joue pas avec elles, je ne veux pas que tu leur parles. Ma famille et moi, nous avons toujours été eux. Qui suis-je ? Me demandai-je en écoutant ce recruteur. Qui sont mes semblables? Nous mourons si facilement, disparaissons si sûrement. Nous, elles, eux, les pauvres et les queers. J'ai pressé mes pauvres poings blancs osseux contre ma bouche de lesbienne têtue. La fureur était une bonne sensation, plus forte et plus pure que la honte qui lui succédait, que la peur et l'envie soudaine de courir et de se cacher, de nier, de faire semblant, de ne savoir ni qui j'étais, ni ce que le monde me faisait. Les gens comme moi n'étaient pas remarquables. Nous étions ordinaires, mais, même ainsi, nous étions des mythes. Nous étions ce « eux » dont tout le monde parle, les pauvres bougres. Pourquoi as-tu si peur ? Me demandaient mes amis et amantes toutes les fois où je semblais soudainement être étrangère, quelqu'une qui ne leur parlait plus, qui ne faisait plus les choses que d'après elles je devais faire, des choses simples comme faire une demande d'emploi, de bourse ou de prix, dont elles étaient sûres que je les obtiendrais facilement. Le bon droit, je leur ai dit, c'est de se sentir nous plutôt qu'eux. Vous pensez que vous avez droit à des choses, que vous avez une place sur cette terre. Et ça fait tellement partie intégrante de vous que vous ne pouvez pas imaginer des gens comme moi, des gens qui semblent vivre dans votre monde mais qui n'en font pas partie. J'ai expliqué ce que je sais encore et encore, de toutes les façons possibles, mais je n'ai jamais été capable de faire comprendre le degré de ma peur, jusqu'à quel point je me sentais niée. Non seulement j'étais homosexuelle dans un monde qui hait les homosexuels, mais j'étais née pauvre dans un monde qui méprise les pauvres. J'ai appris avec beaucoup de douleur que la grande majorité des gens pensent que la pauvreté est une condition de vie volontaire. La théorie féministe traditionnelle a eu une compréhension limitée des différences de classe ainsi que de la façon dont la sexualité et le « moi » sont façonnés à la fois par le désir et par le déni. Cette théorie suggère que nous sommes toutes des sœurs, qui devrions seulement diriger notre colère et notre méfiance vers le monde extérieur, à la communauté lesbienne. Il est facile de dire que le patriarcat est la cause de tout, que la pauvreté et le mépris sont des produits de la société patriarcale. Et j'ai souvent ressenti le besoin de confondre mon vécu sexuel avec ce que j'étais d'accord de partager de mes origines de classe, de prétendre que ma vie en tant que lesbienne et ma vie de femme issue de la classe ouvrière étaient toutes deux construites par le patriarcat. Ou, inversement, d'ignorer combien ma vie fut façonnée par le fait de grandir pauvre et de ne parler que de l'influence de l'inceste sur mon identité de femme et de lesbienne. La difficulté réside dans ce que je ne peux pas imputer purement et simplement la source de mes problèmes dans la vie ni au patriarcat, ni à l'inceste, ni même à la structure de classe de notre société invisible et objet de déni. Au sein de mon collectif lesbien féministe, nous avons eu de longues conversations au sujet de la séparation corps-esprit et de la manière dont nous compartimentions nos vies pour survivre. Durant des années, j'ai pensé que ce concept renvoyait à ma façon de séparer ma vie engagée, activiste, de ma vie secrète, passionnée, à travers laquelle j'assouvissais mes désirs sexuels. J'étais convaincue que la fracture était assez simple, qu'elle serait résolue avec le temps, lorsque j'y verrais plus clair, à peu près au moment où je commencerais à comprendre le sexe. Jamais je n'imaginais que ce n'était pas une scission, mais une fragmentation, et j'ai traversé des parties entières de ma vie, des jours, des mois, des années, à progresser de façon purement dirigée, me levant tous les matins et me mettant au travail, travaillant tellement et si continuellement que j'évitais par n'importe quel moyen d'analyser ce que je savais de ma vie. Travailler devenait une transe. J'ignorais qui j'étais vraiment et comment j'étais devenue cette personne. Je continuais dans cette avancée journalière. J'étais devenue une automate qui n'existe que par son travail. J'ai essayé de faire partie de la communauté lesbienne féministe afin de me sentir réelle et valorisée. Je ne me rendais pas compte que je me cachais, me fondant au milieu des autres par sécurité, comme je l'avais fait au lycée, à l'université. J'ai trop connu cette attitude pour l'oublier. Je croyais que toutes ces choses dont je ne parlais pas, ou auxquelles je ne voulais même pas trop penser, n'étaient pas importantes, qu'aucune ne me définissait. J'avais bâti une vie, une identité dont j'étais fière. J'avais une autre famille, la famille lesbienne, dans laquelle je me sentais en sécurité, et je n'avais pas réalisé que mon moi fondamental avait presque disparu. Il était facile de vivre cette vie à un point surprenant. Tout un chacun concourait à ce processus. Tout dans notre culture, livres, télévision, films, écoles, mode, est présenté comme étant vu, entendu ou façonné par une seule et unique personne. Même si vous savez que vous ne partagez en rien cet imaginaire standard, si vous aimez la country music et pas la classique, si vous lisez les livres avec un certain cynisme, si vous restez incrédule face aux informations que vous écoutez, si vous êtes lesbienne et pas hétérosexuelle, et vivez entourée de votre petite communauté déviante, vous êtes tout de même conditionnée par cet hégémonisme, ou par votre résistance à celui-ci. Le seul moyen que j'ai trouvé pour résister à cette vision hégémonique du monde, fut de m'inclure moi-même dans quelque chose de plus grand que moi. Comme féministe et militante lesbienne radicale, et plus tard, comme militante sexe radicale, ce qui plus tard devint le terme avec féministe pro-sexe pour désigner celle qui n'était pas anti-pornographie mais anti-censure, celle d'entre nous qui défendait la diversité sexuelle, le besoin d'appartenance, afin de me sentir en sécurité, était tout aussi important pour moi que pour n'importe quelle hétérosexuelle, citoyenne, apolitique, et parfois même plus important, puisque le reste de ma vie était fortement engagé dans le combat. La première fois que j'ai lu les poèmes d'Irena Klepfitsch, lesbienne et juive, j'ai éprouvé comme un frisson de reconnaissance. Non pas que mes semblables aient été, en guillemets, rayés de la carte, fermez les guillemets, ou assassinés comme l'ont été les siens. Non, nous avions été encouragés à nous détruire nous-mêmes.
On nous avait rendus invisibles parce que nous ne collions pas au mythe, engendré par la classe moyenne des bons pauvres. Même maintenant, à 40 ans passés et obstinément fier de ma famille, je ressens le poids de cette mythologie, de cette vision romancée et tronquée des pauvres. Je me retrouve à regarder vers mon passé, en me demandant ce qui a été réel, ce qui a été vrai. À l'intérieur de ma famille, tant de choses étaient sujettes à mensonges, plaisanteries, dénis, ou dites de façon délibérément indirecte d'une sourde humiliation, ou accompagnées d'une brève grimace, pincée, qui démentait tout ce qui venait d'être dit. Qu'est-ce qui était vrai ? La pauvreté décrite dans les livres et les films était romantique, servant de toile de fond à l'histoire de personnages qui arrivaient à s'en échapper. La pauvreté, dont les intellectuels de gauche faisaient le portrait, était tout aussi romantique. Une tribune pour taper sur les hautes et moyennes classes, et dans leur perspective, le héros de la classe ouvrière était invariablement masculin, vertueusement indigné et inhumainement noble. La réalité faite de haine de soi et de violence était ou absente ou caricaturée. La pauvreté que je connaissais était monotone, anesthésiante, honteuse. Les femmes y avaient du pouvoir, mais sur des critères qui n'apparaissaient pas comme héroïques au reste de la société. On ne voit les vies de ma famille ni à la télévision, ni dans les livres, ni même dans les bandes dessinées. Il existait un mythe des pauvres dans ce pays, mais il ne nous incluait pas, malgré tous les efforts que je faisais pour nous y faire entrer de toutes mes forces. Il y avait une notion de bonne pauvre, travaillant dur, déguenillé mais propre et intimement honorable. J'ai compris que nous étions les mauvaises pauvres. Les hommes buvaient et étaient incapables de garder un travail. Les femmes, invariablement enceintes avant le mariage, devenaient rapidement usées, grosses et vieilles d'avoir trop travaillé et porté trop d'enfants. Les enfants avaient le nez qui coule, les yeux humides et des mauvaises manières. Mes cousins ont quitté l'école, volé des voitures, pris de la drogue et fait des métiers qui ne mènent à rien comme pompistes ou serveurs. Nous n'étions ni nobles, ni reconnaissantes, ni même pleins d'espoir. Nous nous savions méprisés. Les membres de ma famille avaient honte d'être pauvres et de n'avoir aucun espoir. Travailler, économiser, lutter ou se battre, pourquoi ? Nous avions eu les générations précédentes pour nous apprendre que rien n'avait jamais changé et que celles et ceux qui avaient tenté d'y échapper avaient échoué. Je n'avais que 13 ans. Je voulais qu'on reparte de zéro, recommencer comme des gens nouveaux sans trace du passé. Je voulais fuir ce que l'on avait vu de nous, ce que nous avions été. Ce désir, je l'ai senti chez d'autres membres de ma famille. C'est la première chose à laquelle je pense quand des problèmes surgissent. La solution géographique. Changer ton nom, quitter la ville, disparaître, te refaire. Ce qui se cache derrière cette pulsion, c'est la conviction que la vie que vous avez vécue, la personne que vous êtes, n'ont pas de valeur, qu'il vaut mieux les abandonner, que fuir est plus facile que d'essayer de changer les choses, que changer soi-même n'est pas possible. Parfois, je me dis que c'est cette conviction, plus séduisante que l'alcool ou la violence, plus subtile que la haine du sexe ou l'injustice entre les genres, qui a dominé ma vie et rendu tout vrai, changement si difficile et douloureux. Déménager en Floride n'a pas amélioré nos vies. Nous imaginions toutes que nos vies sont normales. Et je ne savais pas que la mienne n'était pas celle de tout le monde. C'est en Floride que j'ai commencé à comprendre combien nous étions différentes. Les gens que nous rencontrions là-bas n'avaient pas été façonnés par la structure de classe rigide qui dominait le Piémont de Caroline du Sud. La première fois que j'ai regardé mes camarades de collège et que j'ai pris conscience que je ne savais pas qui ils étaient, non seulement en tant qu'individu, mais en tant que catégorie, qui étaient leurs semblables et comment ils se voyaient eux-mêmes, J'ai aussi pris conscience qu'ils ne me connaissaient pas. À Greenville, tout le monde connaissait ma famille. Tout le monde savait qu'on était de la racaille, et cela voulait dire qu'on serait sûrement pauvre, qu'on aurait sûrement des boulots lugubres et mal payés, qu'on tomberait enceinte pendant notre adolescence et qu'on ne finirait jamais l'école. Mais la Floride, dans les années 60, était pleine de fuyards et d'immigrantes, et notre école de la banlieue ouvrière, majoritairement blanche, nous classait non pas d'après le revenu et les origines familiales, mais d'après des tests d'intelligence et d'aptitude. Soudain, j'ai été propulsée sur la voie menant aux études supérieures. Et si l'on ne me méprisait pour mon talent inexistant en société, ma garde-robe lamentable et mon long accent traînant, il y avait également quelque chose que je n'avais jamais connu avant. Un anonymat protecteur, ainsi qu'une sorte de respect et de curiosité réticent concernant mon avenir. Parce qu'ils ne voyaient pas la pauvreté et le désespoir comme une issue courue d'avance pour moi, j'ai pu commencer à imaginer d'autres avenirs pour ma vie. Dans ce pays, nous étions inconnus. Le mythe du pauvre s'était posé sur nous et nous donnait du prestige. Je le voyais dans les yeux de mes professeurs, dans ceux du représentant du Lions Club qui avait payé mes nouvelles lunettes, et dans ceux de la femme de la Junior League qui me parlait de la bourse que j'avais obtenue. C'était mieux, beaucoup mieux, d'être une pauvre mythique que de faire partie des îles que j'avais connues avant. J'ai aussi fait l'expérience d'un nouveau niveau de peur, la peur de perdre ce qui auparavant n'aurait jamais été imaginable. Ne me laissez pas perdre cette chance, priai-je, vivant dans la terreur que l'on ne me voit à nouveau comme je me connaissais moi-même. Il est dur d'expliquer que j'ai fui ma propre vie de façon si délibérée et minutieuse. Je n'avais pas oublié d'où je venais, mais je serrais les dents et je le cachais. Lorsque ma bourse n'a plus été suffisante pour payer mes études supérieures, j'ai passé un an de travail acharné à faire des salades, à être professeure remplaçante ou femme de chambre. J'ai finalement trouvé un job après avoir accepté d'être parachutée n'importe où, là où les services de la sécurité sociale avaient besoin d'une employée. Une fois que j'ai eu un travail et une place fixe, je suis devenue active sur le plan politique et aussi dans ma vie sexuelle, rejoignant l'équipe de volontaires de la Maison des Femmes et tombant amoureuse d'une série de femmes de la classe moyenne qui pensaient que mon accent et mes histoires étaient profondément charmantes. Ce que je leur racontais au sujet de ma famille, de la Caroline du Sud, sur le seul fait d'être pauvre, tout cela n'était que des mensonges, savamment mis bout à bout pour paraître drôle ou amusante. Je savais trop bien que personne ne voulait entendre la vérité sur la pauvreté, le désespoir et la crainte, le sentiment que rien de ce que je faisais ne changerait rien, ou le ressentiment furieux qui couvait sous mes plaisanteries. Même lorsqu'avec ma petite amie, nous avons formé une famille lesbienne alternative, partageant ce que nous pouvions de nos ressources, j'ai maintenu la vérité sur mes origines et celle que je me savais être dans un flou précautionneusement mystérieux. J'ai travaillé très dur pour devenir une nouvelle personne, une lesbienne activiste radicale bien dans sa tête, et j'ai totalement cru qu'en me recréant moi-même, j'aidais à refaire le monde. Ma tante Dot plaisantait. Il y a deux ou trois choses que je sais parfaitement, mais jamais les mêmes, et pas aussi parfaitement que je le voudrais. Ce que je sais assurément, c'est que la classe sociale, le genre, l'orientation sexuelle et les préjugés, raciaux, ethniques et religieux, forment un maillage complexe qui façonne et place des barrières dans notre vie et que la résistance à la haine n'est pas un acte simple. Clamer son identité dans le creuset de la haine et résister à cette haine est infiniment compliqué et, pire, presque impossible à expliquer. Je sais que j'ai été haïe parce que j'étais lesbienne, à la fois par la société et le milieu plus intime de ma famille au sens large. Mais j'ai été également haïe ou méprisée, ce qui d'un certain côté plus fragilisant et insaisissable que la haine, par des lesbiennes dont le comportement et les pratiques sexuelles avaient été forgés par leur classe sociale. Mon identité sexuelle est intimement façonnée par ma classe sociale et ma région d'origine. et la haine dirigée contre mes préférences sexuelles est pour une grande part dirigée contre mon milieu social. Bien que beaucoup de gens, les féministes en particulier, aiment prétendre que ce n'est pas un facteur. Le genre de femme qui m'attire est invariablement le genre de femme qui embarrasse les lesbiennes féministes politisées et respectables des classes moyennes. Mon idéal sexuel est butch, exhibitionniste, doté d'un physique agressif. C'est une femme plus intelligente qu'elle ne veut le faire croire et fière d'être traitée de perverse. Le plus souvent, elle fait partie de la classe ouvrière. Elle a une aura de danger et un humour plein d'ironie. Beaucoup de nos contemporaines prétendent faire preuve d'une grande tolérance sexuelle, mais le fait que ma sexualité soit construite au cœur du fétichisme queer et autour de dynamiques butch femme est largement considérée avec du dégoût ou une haine catégorique. Une des forces que je tire de mon milieu social est l'habitude du mépris. Je sais que je n'ai aucune chance de devenir ce que mes détracteurs espèrent de moi, et je crois que même la tentative de leur plaire ne récolterait que leur mépris, et le mien par la même occasion. Néanmoins, la relation entre la vie que j'ai vécue et la façon dont cette vie est perçue par les autres a toujours invité à une sorte de fantasme m'auto-mythifiant. Il a toujours été tentant pour moi de faire jouer les stéréotypes et les idées fausses de la culture dominante, plutôt que de décrire une difficile et parfois douloureuse réalité. Poussée à la limite, le mythe du pauvre placerait ma famille au-dessus des organisations syndicales et des personnes brisées par l'échec des syndicats. Pour ma famille, les leaders syndicaux, comme les prédicateurs, étaient d'une autre classe, suspecte et haïe autant qu'admirée pour ce qu'elle essayait d'accomplir. Nominalement baptiste du Sud, aucun membre de ma famille ne prêtait attention dans les faits aux prédicateurs, et seuls les enfants allaient au catéchisme. Une croyance sérieuse en quoi que ce soit, toute idéologie politique, système religieux ou théorie sur le sens ou le but de la vie, était jugée irréaliste. C'était une attitude qui m'a beaucoup gênée lorsque j'ai commencé à lire les romans socialement engagés que je trouvais au rayon livres de poche aux alentours de 11 ans. J'aimais particulièrement les romans de Sinclair Lewis et je voulais imaginer ma famille faisant partie de la lutte ouvrière. Nous n'étions pas des suiveurs, m'a dit ma tante Dot avec un sourire lorsque je lui ai parlé des syndicats. Mon cousin Butch a rigolé, m'a dit que les syndicats faisaient payer des cotisations et a dit « Diable, on n'arrive même pas à nous faire mettre un sou à la quête, je vais pas en donner au syndicat. » J'ai trouvé dommage que la seule chose en laquelle ma famille croyait de tout cœur fût la chance et les caprices du destin. Ils avaient l'intime conviction que le plus prudent et le plus admirable était de garder son sens de l'humour, de ne jamais pleurnicher ni trembler et de faire confiance à la chance qui pourrait un jour tourner. Le fait que je devienne une activiste politique dotée d'une ferveur presque religieuse fut ce qui a le plus scandalisé ma famille et la communauté ouvrière du Sud dont elle faisait partie. De façon similaire, ce n'est pas ma sexualité, mon lesbianisme que ma famille a trouvé le plus rebelle. Durant la plus grande partie de ma vie, personne, excepté ma maman, n'a pris mon orientation sexuelle très au sérieux. Non, c'était ce que je pensais au sujet du travail, de l'ambition et du respect de soi-même. Les femmes de ma famille étaient serveuses, filles de comptoir ou ouvrières dans des blanchisseries. J'étais la seule qui ait travaillé comme bonne, une chose que je n'ai dite à aucun d'eux. Ils auraient été en colère s'ils l'avaient appris. Pour eux, le travail, c'était le travail, quelque chose de nécessaire. Tu faisais ce que tu avais à faire pour survivre. Ils ne tiraient pas autant de fierté de leur travail que de leur capacité à endurer le dur travail et les mauvaises passes. En même temps, ils maintenaient qu'il y avait certaines formes de travail, dont celui de femme de chambre, qui étaient seulement pour les noirs, pas pour les blancs. Et alors que je ne partageais pas cette opinion, je savais qu'elle faisait intrinsèquement partie de la façon dont ma famille voyait le monde. Tant qu'il y a des restaurants pour manger, tu peux toujours trouver du travail, me disaient ma mère et mes tantes. Puis elles ajoutaient « On peut se faire un peu plus avec un sourire. » Il est évident qu'il n'avait rien de honteux derrière cela. Ce sourire attendu derrière le comptoir, ce sourire triste lorsque vous n'aviez pas le loyer ou la façon mi-provocante, mi-implorante de ma maman de couvrir de gentillesse le patron du magasin pour obtenir un petit crédit. Mais je détestais ça. Je détestais le besoin que l'on avait qu'elle le fasse et la honte qui suivait chaque fois que je le faisais moi-même. Pour moi, c'était de la mendicité, une quasi-prostitution que je méprisais. Alors, même que je continuais à compter dessus. Après tout, j'avais besoin d'argent. En 1975, je gagnais péniblement ma vie en étant l'assistante d'un photographe de Tallahassee en Floride. Mais le vrai travail de ma vie était mon activisme lesbien féministe, le travail que j'ai réalisé avec la Maison des femmes locales et le comité pour créer un programme d'études féministes à l'Université d'État de Floride. Mon rôle consistait en partie, c'est comme ça que je le voyais, à être une lesbienne féministe évangélique et à aider à développer une analyse politique de cette société qui haïssait les femmes. Je ne parlais pas de classe, ou seulement pour reconnaître pour la forme que nous devions y penser. De la même façon, pensais-je, que nous devions toutes réfléchir au racisme. J'étais une personne décidée, vivant au sein d'un collectif de lesbiennes, toutes jeunes, blanches et sérieuses, étudiant chaque nouveau livre qui avait pour but de s'adresser aux féministes, conduites par ce que je voyais comme un besoin de révolutionner le monde. Des années plus tard, il est difficile de faire comprendre à quel point ma vie me semblait raisonnable à cette époque. Je n'étais pas désinvolte, ni sciemment condescendante, ni inconsciente de la dureté d'une lutte remodelant les relations sociales, mais comme tant de femmes de ma génération, je croyais dur comme fer que je pourrais changer quelque chose avec ma vie, et j'étais décidée à donner ma vie pour tenter de changer quelque chose. Je m'attendais à des moments difficiles, à de longues et lentes périodes de sacrifices et de corvées. Je m'attendais à être haïe et attaquée en public, à avoir à laisser mes désirs personnels, mes amours, ma famille de côté, afin de faire partie de quelque chose de mieux et de plus important que mes préoccupations individuelles. En même temps, je travaillais furieusement à prendre plus au sérieux mes désirs, ma sexualité, mes besoins de femme et de lesbienne. Je pensais que je menais une révolution politique personnelle à tout moment, que je nettoie à la brosse le sol de la crèche, que je trouve un budget pour que l'université achète une collection de livres sur les femmes, que je participe à l'édition du magazine féministe local ou à la création d'une librairie des femmes. Que je sois constamment épuisée et n'ai pas d'assurance santé, que je fasse pendant des heures un travail monotone et non rémunéré, ou encore que je m'éloigne furtivement du collectif pour des rendez-vous avec des femmes butch que mes colocataires jugeaient rétrogrades et sexistes, tout cela n'a jamais perturbé mon engagement total dans la révolution féministe. Je ne vivais pas dans une bulle, j'avais compartimenté ma pensée à un tel point que je ne me demandais jamais ce que je faisais, ni pourquoi. Et je n'ai jamais admis que sous-tendait mes convictions féministes une incrédulité face au changement, imprégnée par ma classe, une peur secrète qu'un jour on ne me découvre comme j'étais réellement, que l'on me découvre et me rejette. Si je n'avais pas été élevée dans l'idée de donner ma vie, aurais-je fait une aussi bonne révolutionnaire, efficace et sacrifiée ? J'ai compris alors, soudainement, tout ce qui était arrivé à mes cousines et à moi-même. Je l'ai compris avec une toute nouvelle et déchirante perspective, où il était clair que j'avais été, et à quel point, brutale avec ma famille et moi-même. J'ai saisi à nouveau combien nous avions été rejetés et privés de tout, et que j'avais tout fait pour ne pas avoir à y penser. J'avais appris comme une enfant que ceux qui ne pouvaient pas être changés devaient rester non-dits, et pire, que celles et ceux qui ne peuvent pas changer leur propre vie ont toutes les raisons d'en avoir honte et de la cacher. J'avais accepté cette honte et y avais cru, mais pourquoi ? Parmi les femmes que je connaissais, il n'y en avait pas une qui aurait compris ce que j'avais dans la tête. Il n'y avait pas de femmes de la classe ouvrière au sein du collectif où j'habitais. J'ai commencé à me dire que nous ne partagions aucun langage pour parler de ces vérités amères. Les jours qui ont suivi, je me suis souvent rappelé cet après-midi à la ferme d'État, ce sentiment d'être un animal dans un zoo, une chose que l'on regarde et dont on rit, utilisée par les vraies personnes, celles qui nous observent. Malgré ses convictions libérales, ce professeur de catéchisme m'avait regardé avec les yeux du surveillant de la prison de mon cousin. J'étais renvoyée à mon enfance, à toutes les peurs auxquelles j'avais essayé d'échapper. Une nouvelle fois, je me suis sentie à la merci de ces gens importants qui savent s'habiller et parler, à qui l'on accordera toujours le bénéfice du doute, pas comme pour moi et ma famille. J'ai ressenti une rage si ancienne que je n'ai pas pu analyser à quel point elle avait déterminé ma vie. J'ai pris à nouveau conscience qu'à certaines, on ne fait pas de quartier, on ne laisse pas de chance. Que le courage, l'humour et l'amour de son prochain ne sont qu'une plaisanterie pour ceux qui édictent les règles du jeu. Et j'ai haï ceux qui font ces règles. Enfin, j'ai reconnu que la plupart de mes maux venaient du fait que je ne savais plus qui j'étais ni à quelle catégorie j'appartenais. J'avais fui ma famille, refusé d'aller lui rendre visite et essayé par tous les moyens de me fabriquer un autre personnage. Il m'a fallu du temps pour transformer ce poème, violent cri de douleur et de rage, en une histoire qui m'expliquait quelque chose que je n'avais jamais voulu voir de près. Le processus de la fuite, de l'enfermement sur moi-même, de la dissimulation. Il m'a fallu presque toute la vie pour comprendre cela, pour voir comment et pourquoi celles et ceux d'entre nous qui sont nés pauvres et différentes sont conduits à se perdre ou à se trahir, mais surtout à simplement disparaître en tant que tels. La vie compartimentée que je m'étais créée vola en éclats à la fin des années 70, après que j'ai eu commencé à écrire ce que je pensais réellement de ma famille. J'en ai eu assez d'avoir peur de ce que pensaient les femmes avec qui je travaillais, principalement des lesbiennes, sur les femmes avec qui je couchais et sur ce qu'on faisait au lit. Lorsqu'un schisme s'est créé dans mon réseau, lorsque je n'ai plus été capable de me dissimuler au sein de la communauté Gwyn traditionnelle, lorsque je n'ai plus pu continuer à justifier ma raison d'être par un activisme politique permanent ou à me distraire en couchant à droite et à gauche, lorsque mes mœurs sexuelles légères, mon orientation vers des dynamiques butch-femme et mon exploration du sexe sadomasochiste sont devenues en partie ce qui me poussait hors de la communauté que je m'étais choisie, je suis revenue à la maison. Je suis revenue pour ma mère et mes sœurs, pour les voir, pour parler, discuter et commencer à comprendre. Une fois à la maison, j'ai vu que pour ma famille, les lesbiennes étaient des lesbiennes, qu'elles portaient des manteaux ou des blousons de cuir. De plus, durant tout le temps où je n'avais pas fait la paix avec moi-même, ma famille s'était arrangée pour faire la paix avec moi. Mes copines étaient traitées comme des versions un peu plus bizarres que les maris de mes sœurs, tandis que je restais tout simplement la sœur qui a toujours été difficile, mais qui faisait toujours partie de leur vie. Cela a eu pour résultat de m'amener à m'interroger sur ce qui m'avait rendu incapable de parler à mes sœurs pendant toutes ces années. J'ai découvert qu'elles ne savaient pas non plus qui j'étais, et il a fallu beaucoup de temps et d'écoute entre nous pour redécouvrir mon sens de la famille et mon amour pour elles. C'est uniquement en tant qu'enfant issu de ma classe sociale et de mon milieu familial que j'ai pu déterminer ce qui est pour moi une vision politique qui signifie quelque chose, que j'ai pu retrouver un sens à mon action militante et que j'ai pu me rappeler l'importance de la découverte de soi-même chez les lesbiennes. Il n'y a aucune analyse féministe complète qui rende compte de la complexité avec laquelle notre sexualité et le cœur de notre identité sont façonnés, ou encore de notre façon de nous voir nous-mêmes comme faisant partie à la fois de la famille qui nous a vus naître et de la famille élargie d'amis et d'amantes que nous construisons invariablement au sein de la communauté lesbienne. Pour moi, l'essentiel était devenu de résister à cette peur omniprésente, à ce besoin de me cacher et de disparaître, de maquiller ma vie, mes désirs, et la vérité sur le fait que nous comprenons finalement si peu de choses, même lorsque nous essayons de transformer le monde en un lieu plus juste et plus humain. Par-dessus tout, j'ai essayé de comprendre la politique du « eux ». Pourquoi l'être humain craint et stigmatise celui qui est autre, tout en redoutant secrètement d'être lui-même un de ces autres. Classe, race, sexualité, genre et toutes les autres catégories dans lesquelles nous nous classons et nous rejetons les unes et les autres ont besoin d'être raclées de l'intérieur. L'horreur de la société de classe, du racisme et des préjugés, c'est que des personnes commencent à croire que la sécurité de leur famille et de leur communauté dépend de l'oppression des autres, que, pour que quelques-unes puissent vivre bien, il doit y en avoir d'autres dont les vies sont tronquées et violentées. C'est une croyance qui prédomine dans cette culture. C'est ce qui rend les blancs pauvres du Sud si désespérément racistes et les classes moyennes si méprisantes à l'égard des pauvres. C'est un mythe qui permet à certains et certaines de croire qu'ils et elles construisent leur vie sur les ruines de celles des autres. La puissance de ce mythe apparaît d'autant plus lorsqu'on examine, au sein même des communautés lesbiennes et féministes, où nous avons pourtant porté une attention particulière au problème de la marginalisation, combien il y a encore de peur, d'exclusion et de personnes qui ne se sentent pas en sécurité. J'ai grandi dans la pauvreté, la haine, victime de violences physiques, psychologiques et sexuelles, et je sais que souffrir ne rend pas noble, ça détruit. Pour résister à la destruction, à la haine de soi ou au désespoir à vie, nous devons nous débarrasser de la condition de mépriser, de la peur de devenir le « eux » dont il parle avec tant de mépris. Nous devons refuser les mythes mensongers et les morales faciles. Nous devons nous voir nous-mêmes comme des êtres humains, avec des défauts extraordinaires. Nous, tout extraordinaire.